Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver comme tous les lundis pour un nouveau numéro de Bistro Vélo. On est ensemble pendant un peu plus de 30 minutes pour échanger, pour parler autour de notre passion. Je vous propose tout de suite de découvrir le menu du jour. Délices de Bretagne, on parlera Trobroléon, Flammkuch, on demandera si la prononciation est correcte. Un petit lien avec l'Alsace, bien sûr. Et puis, le dessert du jour. Je vous rappelle avant cela que c'est votre émission. Vous n'hésitez pas, vous vous connectez, vous partagez, vous posez vos questions via le live Facebook à notre invité. Et puis, il y a également le podcast pour les retardataires. Notre invité du jour, il fait l'actualité depuis le début de la saison. C'est Hugo Hofstetter. Salut Hugo, comment ça va?
Salut, ça va et toi?
Ravi d'être en ta compagnie, pardon Hugo, avec une activité 2022 très très riche, récemment vainqueur du Trobroléon. On t'a vu sur tous les terrains, on te voit depuis le début de l'année 2022, tu es le monsieur peloton, le coureur le plus régulier de la saison 2022. Est-ce que tu en as conscience?
Ouais, oui et non, après... Je travaille dans ce sens-là. Je m'investis beaucoup, je pense, dans plein de choses pour justement avoir les résultats que j'ai cette année. Et en plus, il y a plein de choses qui vont dans le bon sens. Donc, ça permet d'avoir vraiment tout qui se passe bien. Et donc, du coup, c'est vrai que chaque résultat emmène à un autre résultat. Et puis après, on est un peu dans une spirale positive. Donc, quand tout se déroule comme ça, c'est super.
On avait fait passer une petite infographie à Simon Farvac, notre réalisateur, qui l'avait préparé. Est-ce que tu sais combien tu as fait de top 10, Hugo, dans cette année 2022? Nous, on les a calculés.
20.
20 top 10, effectivement. Est-ce que tu sais combien tu en as fait en carrière, en 6 ans et demi à peu près?
Non, en carrière, bonne question, là. Je pense, peut-être 100.
Ouais. 93, voilà, on est complet, 93 top 10 en carrière. On ne s'est pas amusé à calculer les top 5 ou les podiums, mais il y en a beaucoup, 20 top 10 en 2022, on le disait, une régularité exceptionnelle. On t'appelle également monsieur.uci, tu vois ce que je veux dire?
Ah bon? Ouais, j'avais pas encore entendu, ouais. C'est vrai que j'en ai un paquet, ouais. Bah, l'autre jour, c'est quelqu'un qui me demandait ça parce que... On me dit toujours, ah, t'es 25e ou t'es 47e, mais en fait, c'est vrai que le classement UCI est avec les points de l'année dernière. Donc, du coup, je m'étais demandé combien j'étais sur cette année. Et puis, je crois qu'on avait calculé 15e ou 16e, je crois, de cette année. Donc, c'est vrai que ça fait un paquet de points. Et c'est aussi bien, comme dit, c'est pas vraiment ce que je recherche parce que c'est les victoires, mais. Vu que à chaque fois je dispute, je suis pas loin de la victoire, c'est sûr que ça amène des points avec les places d'honneur.
Hugo, est-ce que tu considères que tu as franchi un cap, que tu as gagné en maturité, que tu as gagné également en puissance à tous les niveaux en tant que cycliste dans cette année 2022?
Ouais, je suis obligé de dire oui parce que je peux pas dire non, mais après je pense que il y a plein de choses qui cette année où j'ai peut-être plus de confiance. J'ai aussi le bénéfice du travail que j'ai fait les années précédentes, forcément. Et je pense que cette année, oui, à mon avis, physiquement, j'ai jamais été aussi fort physiquement. Et peut-être surtout, j'ai envie de dire aussi au niveau de la tête et de la confiance. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important d'avoir confiance en soi et surtout sur le vélo. Et justement, ça permet de surpasser les limites un petit peu et des barrières qu'on peut se fixer. Et justement, ça, c'est important d'être bien. Et aussi, l'équipe me fait vraiment confiance et tout est mis en œuvre pour que je performe au mieux. Donc, quand on se sent bien, c'est un ensemble de choses qui fait que cette année, c'est vraiment une super saison pour le moment. Ouais.
Et elle ne fait que débuter. Un coucou à Laurent, un coucou à Claude, à Dominique, à Nicolas. Vous êtes très nombreux déjà via le live Facebook. N'hésitez pas à vous poser vos questions à Hugo. Cette victoire au Trobroléon, on a vu les images après sur Eurosport, Hugo. La délivrance, la rage carrément après ce sprint, ce mano à mano avec Luca Mazzato. Tu avais besoin d'extérioriser.
Ouais, c'est vrai. Après la ligne, c'est vrai que quand j'ai passé la ligne, pour une fois, c'était pas forcément très explicite, on va dire. Mais après, c'est vrai qu'en passant la ligne, c'est là où j'étais vraiment content et content pour l'équipe aussi. Et content que tout simplement que cette victoire arrive parce que je pense que Elle m'a glissé un peu entre les doigts deux, trois fois, je pense, avant déjà. Et c'est un peu rageant quand c'est comme ça, quand on a la victoire dans les jambes, mais que ça vient pas. Et j'avais l'impression qu'il y avait toujours quelque chose qui faisait en sorte que je gagne pas, quoi. Donc, c'est ouais, après, en plus, chez les pros, enfin, voilà, on gagne pas souvent, donc c'est quand même le moment de profiter. Et c'est vrai que ces moments, ils passent super vite, donc c'est vrai que on a envie d'en vivre plus souvent. Ouais.
On t'a vu faire ce petit geste, le chut, sur la ligne au moment où tu l'as franchi sur le Trobourg Léon. Ça voulait dire quoi?
Bah, après, ça faisait un moment qu'on me demandait quand c'est que j'allais gagner. Et puis, c'est toujours la même question au final, parce que c'était ouais, alors quand est-ce que tu vas gagner? Et du coup, tu vas gagner. Et au final, je faisais des super résultats et je faisais deuxième, deuxième, troisième, troisième. Alors bon, on en parlait un petit peu, mais c'est vrai que c'était la question qu'on aimait me poser au final. Donc du coup, là, c'était juste que voilà, après la ligne, on ne pouvait pas me poser la question de savoir quand est-ce que j'allais gagner. Et là, c'était bon, c'était fait.
Et pourtant, tu vois, on parlait de cette saison, pour l'instant plus que réussie avec cette victoire sur le Trobron, tous ces top 10 et ces places d'honneur, Hugo. Il y a eu une grosse mésaventure également dans cette année 2022 sur le circuit de la Sarthe. Une chute, 35 points de suture à l'oreille. C'est
Ouais,
dingue!
c'est dingue. Et en plus, j'en ai eu aussi un à la main. Et en fait, bah, sur la même chute, il m'est arrivé deux trucs de dingue, entre guillemets, percuté par l'arrière avec le vélo d'un coureur. Après, bon, en plus, cette chute, on est quasiment tous tombés dans le peloton. C'est une chute vraiment hyper rapide sous la pluie et en descente. Et du coup, le vélo du concurrent derrière m'a percuté. Et ça fait qu'au début, j'ai même pas senti l'oreille parce que ma main était plantée dans la valve du vélo de devant.
Ah.
Donc, en fait, j'étais vraiment obnubilé par ma main et en plus, vraiment compressé le trou que j'avais. Donc, et puis, c'est après qu'on m'a dit, ouais, ton oreille, elle est entaillée. Mais quand je suis arrivé à l'hôpital, en fait, qu'on m'a dit qu'il y en avait à avoir pour au moins 1 heure, voire peut-être 2 heures d'opération, j'ai compris que c'était plus grave que juste une petite entaille, quoi. Mais ouais, c'était un peu comme je disais tout à l'heure, pareil pour la victoire, ça m'échappait. Et des fois, tu as l'impression qu'il y a des petits signes. Et cette chute, c'était vraiment le truc, voilà, quasiment improbable. Et ça s'est déroulé comme ça. Et voilà, après j'ai essayé de me remobiliser tout de suite et de trouver une source de motivation. Et j'ai pas, après, j'ai pas perdu de temps, mine de rien. Donc, j'ai rien eu de cassé. C'est peut-être ça le plus important, quoi.
Ouais, c'est peut-être ça l'essentiel. T'en gardes des séquelles? Il y a quoi? Il y a une grosse balafre sur l'oreille?
Bah, là encore, dans mon malheur, j'ai eu pas mal de chance. En fait, l'hôpital qui m'a pris en charge,
Ça
au
se
moins.
voit pas trop là comme ça. Enfin, moi,
Non, non,
quand je
non,
te regarde, ouais.
c'est. Non, non, franchement, même les gens qui me connaissent m'ont tout de suite regardé l'oreille. C'était la première chose
Bah
qui les
oui.
intéressait. Et non, même eux ont dit, non, non, si, franchement, ça se voit pas. Et non, comme dit, j'ai eu de la chance qu'il y a eu un spécialiste ORL, en fait, dans l'hôpital. Donc, du coup, il m'a vraiment fait un truc propre. Et je pense c'est peut-être pour ça. Enfin, c'est lui qui me disait, voilà, je peux t'en faire 15 si tu veux, mais tu n'auras plus vraiment une oreille. Donc, j'ai dit, c'est bon, fais les 35 et au moins, je reste avec une oreille normale, quoi.
Pas une oreille chou-fleur façon rugbyman. Tu sais, nous dans le bistrot du vélo, on aime bien donner des petites surprises à nos invités. Il y avait d'ailleurs quelqu'un que tu connais très bien, un certain Steve Chenel, qui avait une question à te poser. Je te laisse la regarder, la découvrir, et puis on en reparle juste après.
Yes.
Salut Hugo, alors
Salut
moi
Hugo. Alors moi j'ai deux petites questions à te poser. La première question c'est est-ce que tu peux nous décrire et nous expliquer ce qui change entre une formation du World Tour Israël dans laquelle tu étais ces 2 dernières années et une formation Conti Pro française, la formation Arkéa-Samsic. Quelle est la petite différence? Et la deuxième question, est-ce qu'à un moment tu as douté après le nombre de fois où tu as fait dans les 5 premiers, le nombre de fois où tu t'es fait finalement avoir par ta générosité à mon sens, un petit peu trop prononcé. Est-ce qu'avant cette victoire au Trobourg Léon, tu as douté de te dire que tu étais finalement toujours dans la capacité de gagner, même si je sais que tu as une grande confiance en toi, mais à un moment donné, le doute peut s'installer. À plus. Bon, Steve Chenel qui nous fait deux questions en une, on va attaquer par la deuxième. Est-ce que tu as douté?
Non, 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 j'ai jamais vraiment eu de doute dans ma tête. Je peux pas complètement l'exclure, mais non, je pense pas, parce que voilà, je savais, comme dit, que j'en étais capable. Et comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y avait toujours quelque chose qui venait. Et je me suis dit, de toute façon, forcément, je continue de travailler, je fais les choses pour que ça arrive et c'est obligé que ça arrive, que à un moment donné, ça va sourire et tu es toujours récompensé du travail que tu fournis. Donc voilà, c'était juste une, pour moi, c'était juste une question de temps et je prenais les courses comme elles venaient et puis je savais que ça allait arriver à un moment donné. Et puis c'est pour ça que même au moment de lancer le sprint, j'ai lancé de loin parce que je savais que je pouvais le faire et que c'était la meilleure manière de vraiment être sûr de gagner, quoi.
Pour répondre à la première question de Steve, c'est vrai que tu as été un des rares coureurs hein, français à s'expatrier à partir du côté de l'équipe Israël Première Tech Startup Nation en 2020 et 2021. Qu'est-ce que tu retiens du coup de ces 2 années avec Israël? Et puis surtout, pour répondre à la question de Steve, quelle est la différence entre le système de fonctionnement de cette formation World Tour et celui d'Arkea aujourd'hui?
Bah après, moi j'en retiens un bon souvenir quand même au final et c'était une belle expérience et aussi de voilà de d'être dans une équipe étrangère, de parler l'anglais un peu plus couramment et de développer ça aussi et de voir aussi l'ambiance qu'on pouvait avoir voilà dans une équipe où tout le monde parlait un peu la même langue au final et non après je voilà, après, déçu un petit peu de la manière dont ça s'est déroulé entre ma première année, qui s'est, voilà, avec la victoire, malheureusement, il y a eu le Covid, et la deuxième, où mon calendrier de course n'a pas forcément été adéquat avec mes capacités. Et voilà, je pense que c'est pour ça aussi que l'année dernière, je fais un peu moins de résultats. Par contre, j'ai fait une deuxième partie de saison où les courses me convenaient, et puis ma deuxième partie de saison, elle était excellente. Donc voilà, et puis le regret de ne pas avoir refait un grand tour l'année passée. Donc voilà, c'est un peu entre deux eaux. Et puis la différence, après, on va dire que c'est vrai que pour moi, peut-être la plus grosse différence entre Arkea et Israël, et la Pro Conti qu'on est chez Arkea, mais bon, on est invité partout cette année, on a la chance de ça. Donc ça, c'est très bien. Mais je pense que ça peut être le calendrier de cours, justement, qui est un peu différent quand même et où il y a vraiment voilà on a un peu un calendrier différent sur une World Tour étrangère que sur une World Tour française ou une Continental Pro française et c'est ça qui permet aussi peut-être à un moment donné de rajouter des courses peut-être qui correspondent plus à ton profil et soit en enlever d'autres à un moment donné ou de recourir à un niveau un peu inférieur au lieu d'être dans le World Tour toute la saison. Et ça c'est très, très important parce que c'est vrai que le World Tour, souvent, c'est un calendrier très, très dense,
Bien
enfin,
sûr.
forcément dense, mais aussi super dur. Donc, c'est vrai que, et qui ne correspond pas forcément tout le temps. Donc, voilà, ça permet toujours de cibler des courses et d'avoir des objectifs, on va dire, tous les week-ends, plus ou moins, quoi.
À titre personnel, Hugo, qu'est-ce que ça t'a fait de côtoyer, toi, le sprinteur, bah, une légende du sprint, un certain André Greipel, dans ces dernières années, mais l'Allemand avec le palmarès qu'il a, est-ce que tu as pu échanger avec lui? Est-ce que tu as appris?
Bah oui, forcément, quand on est coéquipier, c'est sûr, en plus, on a quand même pas mal couru ensemble. Et pour moi, c'est vraiment une grande fierté d'avoir roulé aux côtés d'André. J'ai pu en plus participer à ses 2 dernières victoires chez les pros. Donc, je suis vraiment content de ça. Et même, bah, je l'ai même, on va dire, aidé aussi un petit peu sur le vélo, justement, en roulant une des 2 fois pour sa gagne. Donc voilà, je suis très content d'avoir apporté ça. Et c'est sûr que côtoyer André avec le palmarès qu'il a, il y a beaucoup de respect derrière tout ça. Et c'est toujours vraiment un plaisir de rouler avec des coureurs comme ça. Et c'est ce qui aussi, même à l'entraînement, au stage, te donne aussi un peu plus de force aussi, on va dire, on va dire, de motivation à vraiment être à la hauteur, quoi. Et aussi, on a un groupe, je pense que ça, c'est très important. On est dans un collectif où le niveau est très haut parce que tout le monde se tire vers le haut. Et ça, c'est, voilà. Et puis, il y a aussi, voilà, comme dit, de côtoyer des coureurs comme André, c'est vraiment motivant pour justement être à la hauteur, quoi.
C'est un petit peu ce qui se passe d'ailleurs, tout le monde se tire vers le haut. Dans ta formation, le Team Arkea a un début de saison exceptionnel, 11 victoires déjà, c'est une émulation collective entre les performances de Nairo Quintana, tes performances à toi, toute l'équipe, bah, avec l'équipe Cofidis, vous dominez aujourd'hui le tableau de chasse des formations françaises. Ça se passe très 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 bien ce début d'année 2022.
Ouais, non, franchement, c'est C'est super, hein. Après, c'est pas un hasard, c'est vraiment le fruit du travail de l'équipe. Tout a été mis en place dès le mois de décembre au premier stage, en essayant aussi de nous mettre à disposition tout ce qu'on avait besoin pour performer. Aussi de proposer de rallonger les stages en laissant du personnel sur place et donc permettre de s'entraîner dans de bonnes conditions. Donc tout ça, c'était vraiment important. Et voilà, toute l'équipe a travaillé autour de ça. Et j'avais dit l'autre jour, je ne sais plus à qui, mais je pense qu'on a la chance dans l'équipe de vraiment que les rôles sont définis et aussi on a un collectif vraiment hyper homogène où tout le monde trouve sa place, je pense. Et aussi, voilà, on a vraiment plusieurs, on va dire, on n'a pas que des grimpeurs dans l'équipe, mais c'est vrai qu'on a un peu de chaque rôle, enfin
Ouais.
de chaque capacité en fait de coureur dans chaque domaine. Et ça, c'est vraiment hyper bien réparti. Et c'est vrai qu'il y en a un peu pour tout le monde. Et après, bah, les résultats, forcément, ils tirent vers le haut tout le monde. Et voilà, ça c'est super motivant. Et là, franchement, d'être dans une équipe qui performe aussi bien, même à titre personnel, et quand on voit le classement UCI des équipes, quand on voit qu'on est cinquième, eh ben voilà, ça motive encore plus à s'entraîner et puis à toujours être performant pour vraiment faire un super classement d'ici jusqu'à la fin de l'année.
Ouais, forcément, ça, c'est très motivant, l'équipe Arkéa qui réussit un début de saison extraordinaire. La deuxième partie, on l'a nommée Flamme-Cuche. Est-ce qu'on prononce comme il faut?
Ouais, c'est en français, ouais. Tarte
Si.
flambée, ça se dit aussi tarte flambée en français.
Une tarte
Et
flambée, ok.
en fait, c'est Floma Cura.
Flomacura.
Voilà, en alsacien. En alsacien. Parce
Oui, bah,
que
oui.
Flamme-Cuche, en fait, c'est alsacien. Donc Floma Cura, c'est le mot alsacien. Ouais,
Est-ce que tu en manges encore un petit peu ou on n'a pas le droit avec le régime vélo?
ça arrive en hiver. En hiver.
Ça arrive un petit peu. On le disait, Hugo, quand on parle un petit peu avec tes proches, avec ceux qui te connaissent sur le vélo, toi, l'Alsacien, tu es fier de ta région, tes racines, c'est quelque chose d'important pour toi. T'es pas parti, t'as pas été appelé par le soleil de la Côte d'Azur comme bon nombre de cyclistes. T'aurais pu aller du côté d'Andorre également, en principauté, pour d'autres raisons. Toi, tu as décidé de rester dans la famille, j'ai envie de dire.
Ouais, je pense que quand je suis passé pro, c'était quelque chose que je me voyais pas faire, en fait, de quitter ma famille et avoir ce. On est tellement parti aussi que je me disais, ah ouais, si j'habite dans le sud, mais si je veux voir ma famille dans la semaine, je suis obligé de faire 400 ou 500 km. Donc, c'est juste inenvisageable. Et voilà, c'est vrai que je suis bien là où je suis. Et après, ouais, bah, forcément, l'hiver, je fais un peu des stages personnels ou
Des
en Espagne.
raquettes.
Voilà, donc ça, je l'avoue un petit peu quand même. Et puis voilà, c'est un équilibre en fait à trouver quand on est chez les pros, je pense, entre vraiment avoir des conditions idéales pour s'entraîner et aussi être bien dans sa tête, quoi.
Ouais, bien dans sa tête, c'est quasiment ce qui est le plus important pour performer ensuite sur le vélo. Autre question d'un de tes coéquipiers, d'un de tes camarades, Mathis Louvel, on l'écoute.
Salut Hugo, bonjour à tous. Bon alors, dis-moi Hugo, c'est quoi le secret des yeux de ton chien Pétrus? Tu lui mets des lentilles, non?
Ouais, pas mal ceci. Bah, c'est vrai que du coup je répète pas la question, non?
Non, tout le monde l'a entendu. Moi j'ai vu que le
Ah oui.
chien avait un compte Instagram.
Ah oui. Ouais,
Ouais.
parce qu'en fait c'est pareil, on m'avait demandé, ah, c'est quand que tu fais un compte Instagram pour ton chien? Bah, du coup dans la soirée je l'ai fait. Donc ouais, non, non, il a pas de lentilles, mais c'est vrai qu'on en a eu un paquet de fois, on a eu la réflexion. Bon, après, il a eu de la chance, hein, donc après, c'est vrai que du coup, il a un grand, grand, grand succès, lui, hein.
C'est la mascotte, hein. On a vu des images de notre réalisateur, hein, qui est allé chercher sur le net, comme ça on te voit en course avec Petrus, il vient te voir un petit peu de temps en temps.
Ouais, bah après, en plus, avec Marie, ma copine, bah, du coup, font les déplacements, et du coup, c'est vrai que sur les courses, ça fait du bien quand ils sont là. Et après, justement, la présentation à Nokereux que je connaissais avec le vélo, c'était l'idéal. Et du coup, il a l'habitude parce que je le promène en vélo. Donc, du coup, c'est un peu comme à la maison, quoi.
Un petit peu comme à la maison. Question de Clément sur le live Facebook. Est-ce que tu as des nouvelles de Nasser Bouhanni après sa lourde chute? Vous êtes en contact ou pas du tout?
Je lui avais envoyé un message après sa chute. Après, c'est sûr que c'était vraiment une chute très très lourde et aussi un sacré moment d'arrêt aussi où t'es pas sur le vélo. Et voilà, on avait échangé un peu par message et après, voilà, non, je pense que c'était un peu frais et j'avais compris que ça allait pas être facile pour lui, c'était sûr. Et je pense pour tous les coureurs, c'est pas facile de rester un peu dans cette immobilité, on va dire, avec un corsaire pendant 2 à 3 mois. Mais je pense qu'il va, il va trouver la motivation et il va revenir. Et c'est quelqu'un de très fort mentalement. Je lui fais confiance pour ça.
Tu parlais tout à l'heure dans la première partie en évoquant l'équipe Israël de la découverte d'un grand tour, à savoir le Tour de France. À 28 ans, 6 saisons et demie professionnelles, tu n'as pour l'instant, Hugo, disputé qu'un seul grand tour. Donc ce Tour de France 2020, tu avais d'ailleurs pris la quatrième place hein, sur la troisième étape à Sisteron, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'est quelque chose pour toi de vraiment important, à savoir d'en disputer d'autres, peut-être celui de cette année. Il y a la Vuelta également qui est au programme de ton équipe. Est-ce que c'est un manque de ne pas avoir participé au Giro qui vient de se terminer avec la victoire de Jay Hindley à la Vuelta, ou alors pour toi c'est pas très grave?
Bah non, après, comme je dis, l'année dernière, j'étais déçu de ne pas faire de grand tour parce que voilà, je pense que j'avais la place, largement la place, on va dire, d'en faire un, on va dire, même sur la Vuelta. L'équipe en a décidé autrement. Et non, je pense que c'est vraiment important de. C'est surtout important d'en faire un, pas que pour faire un grand tour, mais surtout aussi pour garder un certain niveau et aussi pour les années futures. Et c'est vrai qu'un grand tour, il n'y a rien de similaire. Il n'y a pas une seule course par étape qui est très longue, par exemple 2 semaines. C'est vrai que c'est vraiment le gap entre une semaine et 3 semaines.
Ouais.
Donc c'est vrai que pour moi, c'est vraiment important de faire un grand tour maintenant chaque année depuis que j'ai fait le tour. Donc cette année, ça serait important d'en refaire un pour vraiment voilà, garder ce niveau de performance et même élever encore le niveau et voilà ça c'est très important même dans l'entraînement dans plein de choses et ouais ça serait très bien d'en refaire un ouais.
Bah, tu me vois venir, alors on va te voir sur le Tour de France ou sur la Vuelta, il y a quelque chose de programmé dans les tuyaux?
Faut demander à mon équipe parce que non après forcément c'est eux qui prennent la décision donc voilà c'est je suis un peu dépendant de ça forcément
Bien sûr.
après voilà moi je fais en sorte d'être performant d'être voilà de faire ce qu'on me demande plus ou moins quand même et voilà je serai prêt pour préparer les deux dans tous les cas et prêt pour le disputer un des deux ça c'est sûr.
Manu, si tu nous écoutes, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourire. Il y a également un moment qui va être important pour toi, bah, les championnats de France du côté de Cholet. Tu y es déjà cité parmi les principaux favoris sur un circuit qui normalement devrait plaire aux sprinteurs. Tu avais été champion de France dans les catégories espoir en 2015. C'est quelque chose que tu as coché, cette date à Cholet cette année?
Bah ouais, forcément. Après, comme dit, je pense que
Si t'es champion de France à Cholet, ils seront obligés de t'emmener sur le tour après.
Ouais, ça c'est sûr, ouais, parce que bon, je verrais mal faire un Championnat de France, pas sur le Tour de France, c'est sûr. Mais non, au-delà de ça, bah, je serais surtout content de gagner pour moi, mais aussi pour l'équipe. Ramener un titre de Championnat de France, ça serait magnifique. Forcément, je coche pas forcément des dates précises dans mon calendrier parce que j'estime que chaque course est importante et j'ai envie d'être performant tous les dimanches quasiment. Et je fais de mon mieux à chaque fois. Et après, c'est sûr que des fois, on essaye peut-être d'en sacrifier une, entre guillemets, donc être un peu moins bien pour justement être encore un peu mieux sur une autre. Et voilà, j'essaie de. Le championnat de France, c'est un peu un objectif. À long terme, enfin là c'est court terme, mais c'était un objectif à long terme sur le début de ma carrière. Donc voilà, je sens que je m'en rapproche un peu de plus en plus, on va dire, au niveau de la performance et du physique. Donc voilà, j'espère que ça, si c'est cette année, ça sera déjà très bien.
Autre question, Anthony, tu es adepte de tatouages, c'est pour le fun ou alors est-ce que ça a des significations? C'est vrai qu'on te reconnaît souvent, il y en a un peu de partout des tatouages.
Ouais, j'en ai un paquet, hein, ça c'est sûr. Non, c'est moi si j'en fais un, c'est que chacun a une signification
D'accord.
et ça c'est très important et je me vois pas faire un papillon parce que je trouve un papillon joli, quoi.
Une libellule, pourquoi pas? Une
Ouais,
libellule.
une libellule, ouais, comme dans Dickenney, quoi.
Ouais, ça peut être sympa. Quand on parle également avec ton entourage, quand on sonde un petit peu tes coéquipiers dans le bus Arkéa, tout le monde dit Hugo, c'est un garçon coquet. Bah d'ailleurs, il y avait un de tes coéquipiers, c'est Kevin le Danois, qui a une question pour toi.
Salut Hugo, salut Colin, salut à tous.
Salut Hugo, salut Colin, salut à tous. Dis-moi Hugo, on sait que t'aimes bien les belles affaires, les belles baskets et tout, mais quand est-ce que tu crées ta ligne de vêtements?
Elle est bonne celle-ci. Ouais, c'est une bonne question ça. Faudrait que je trouve un partenariat avec une marque là pour qu'on fasse une collaboration, un truc comme ça. Parce que, mais c'est vrai que, fut un temps, j'avais déjà fait des t-shirts plus ou moins. C'était pas vraiment une collection, mais des t-shirts pour le fan club, on va dire. Et ça avait bien marché. Et après, c'est toujours difficile de cibler un public hyper large, forcément. Donc, il n'y a pas tout le monde qui a envie de se promener avec un t-shirt où il y a marqué ton prénom dessus, c'est sûr. Donc, ouais, non, mais une petite collaboration avec une marque dans le futur, pourquoi pas, ce serait sympa.
Effectivement, j'ai vu une autre question passer. Toi, tu te définis comment coureur de classique, coureur de course d'une semaine? On sait que tu aimes les courses difficiles, Paris-Roubaix, tu avais performé dans les catégories jeunes, le Trobro-Léon. C'est quoi vraiment ton style de course? Et puis, quel coureur es-tu au final? Tu te considères comment toi?
C'est une bonne question. En fait, je me considère pas vraiment comme un coureur de quelque chose parce que j'aurais envie d'être un coureur de tout, en fait. Et ça,
On sait juste que t'es pas un grimpeur, par exemple.
Ouais, voilà, ouais, ça c'est vrai. Et pas un contre-la-montre aussi, pas trop, enfin, vraiment pas. Donc, j'essaie de grimper de mieux en mieux, ça c'est sûr, mais je gagnerai sûrement pas en haut d'un très très long col. Mais non, j'ai envie de performer dans beaucoup de domaines et j'ai envie d'être le plus complet possible, de plus en plus, et depuis le début de ma carrière. Et je pense que j'y arrive aussi un peu de plus en plus. Et voilà, ça me permet de cibler aussi de plus en plus de courses. Et ouais, non. Donc c'est difficile de répondre à ça. Après, je pense que forcément, les classiques, c'est quand même les courses qui me conviennent le mieux, ça c'est sûr et certain.
Toi, tu as plus l'habitude de ferrailler avec les autres sprinteurs, hein. Tu les côtoies tout au long de la saison, c'est là où tu vas chercher tes places d'honneur et tes victoires. Si aujourd'hui tu devais établir justement une hiérarchie du sprint mondial, un top 5 des sprinteurs, toi qui les côtoies, tu mettrais qui en premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième? Pas facile, hein?
Non, 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 c'est sûr. Bah, après, en plus, j'ai envie de dire qu'il y a de plus en plus de coureurs qui vont vite. Et enfin, comme la question juste d'avant, c'est vrai que il y a des voilà, un Mats Pettersen par exemple n'allait pas forcément hyper vite au début, mais est devenu très rapide par la suite et aussi sur certains types de courses.
Ouais.
Donc voilà, un Wout Van Aert, il peut aller très très vite aussi, mais pas tout le temps. Après, si on devrait établir un classement, ça serait plutôt sur l'année et vraiment sur qui va le plus vite tout le temps. Et après, ça serait plutôt un. Je pense que Tim Merlier, c'est un coureur hyper rapide. Et Caleb Ewan. Et Philipsen. Je pense c'est. Après, Groenewegen, c'est un sprinter pur. Donc forcément, on ne peut que le citer. Donc je pense que Groenewegen, Caleb Ewan, là, les quatre que je viens de citer, c'est. C'est difficile de faire le classement, mais voilà, parce que c'est vrai que les quatre sont très rapides et le sprint, c'est toujours un peu d'une manière différente. Et c'est vrai qu'on peut, sur une course d'une semaine, les quatre peuvent gagner. Et c'est rare que ça soit quatre fois de suite le même qui gagne. Donc, ouais, je pense que les quatre là sont vraiment les sprinteurs, on va dire, les plus rapide avec Jacobsen que qui me vient maintenant dans la
Il y
tête.
en a beaucoup, hein.
Donc, mais c'est vrai que Jacobsen, il a gagné un paquet de victoires cette saison et il est vraiment hyper rapide et surtout sur les sprints. Lui, c'est plutôt, enfin ces sprinteurs-là, c'est plutôt les sprints purs à part Merlier. Donc,
Y a un petit jeune qui arrive d'ailleurs avec qui tu as bataillé cette année, c'est Arnaud Delis qui était présent dans l'émission Bistro Vélo il y a quelques semaines. Il t'a impressionné le petit Belge?
bah ouais, il est rapide et après. Moi, ce qui m'impressionne surtout, c'est que voilà, c'est des jeunes coureurs et ils arrivent chez les pros et ils sont hyper performants tout de suite. Donc, et ce qui était, je trouve, pas le cas avant. Et c'est vrai que ça, c'est assez impressionnant de voir ces jeunes qui, ouais, tout de suite trouvent leur marque et qui n'ont pas trop de problèmes, on va dire, d'adaptation. Donc, mais voilà, c'est aussi le système qui est super bien développé en amont. Donc ouais, non, c'est sûr qu'il est assez impressionnant aussi au sprint. Une fois, j'ai pas pu le déborder non plus à Montsoreux. Donc, c'est sûr que lui, c'est un sacré morceau au sprint aussi. Ouais.
On parlait du cyclisme il y a quelques années, Hugo, comme un sport à maturité longue où on disait qu'il fallait attendre 26, 27, 28 ans pour rentrer dans ses meilleures années. Aujourd'hui, tu donnais l'exemple, hein, c'est des jeunes qui arrivent à 19, 20, 21 ans et qui sont tout de suite performants, qui gagnent tout de suite. À quoi tu assimiles ça, les nouvelles méthodes d'entraînement, la diététique? On fait le travail plus tôt chez les jeunes avant d'arriver professionnel, on est mature plus vite?
Moi, ouais, je pense que c'est un ensemble de choses, hein, forcément. Et la première, c'est que voilà, maintenant, on a développé le vélo. Le vélo s'est développé. On a fait des équipes continentales avant déjà comment dire, on a créé des équipes continentales, des équipes réserves. Donc, mine de rien, des jeunes coureurs, en fait, courent déjà chez les pros des fois avant de passer chez les pros, à l'image de Arnaud Delis. Je pense que voilà, chez Lotto Soudal. Espoir au développement, je ne sais pas comment ça s'appelle, a
Ouais.
dû courir des courses 1.1, peut-être pas hors classe, mais voilà, si tu fais déjà du 1.1 comme le Samin, voilà, ça te permet de courir le Samin et des courses comme ça, eh ben, déjà tu es presque pro avant d'être pro. Et eux ont aussi un système d'une équipe professionnelle avec des stages au mois de décembre, des stages au mois de janvier, être massé, toutes ces choses-là. Et voilà. Maintenant, encore plus, voilà, et les capteurs de puissance, c'est pareil. Avant, il n'y avait qu'une marque hyper chère qui faisait ça. Maintenant, il y a beaucoup de marques beaucoup plus accessibles. Donc voilà, c'est un outil en plus. Beaucoup de choses, beaucoup plus d'outils qui est possible et mis à disposition même des très jeunes coureurs. Et même le matériel, les choses comme ça. Et voilà, les jeunes maintenant savent qu'il faut voilà performer hyper vite pour passer pro tout de suite parce que on passe pro plus à 25 ans maintenant et ça c'est dommage à mon sens. Et après il y a une philosophie aussi qui s'est installée comme ça, le recrutement, voilà, comme dit, le recrutement maintenant il se fait sur des jeunes coureurs et maintenant là il y a pas y a, en tête il y a personne qui me vient qui est passé pro peut-être les 2 dernières années à 24 25 ans, donc alors qu'un Lilian Calmejean est passé pro à 25 ou un truc
Ouais.
comme ça, donc voilà. Et ça, c'était plus courant avant. Et je pense que ça laissait un peu plus de temps aussi. Et maintenant, il y a plus de courses. Il y a beaucoup de choses qui changent aussi chez les pros et qui demandent d'être plus performants tout de suite. Et ça laisse aussi un peu moins de temps pour justement arriver à maturité, quoi. Et ça va être un peu la différence entre ceux qui sont en fin de carrière, milieu, ou ceux qui sont au tout début, quoi. Et ça sera, le cyclisme a changé quand même.
Oui, il y a cette phase de transition. Tu le disais, le cyclisme a changé. Et puis, il y a toujours cet éternel débat. On le voit, tu en étais victime d'ailleurs sur le circuit de la Charte. Les chutes. Alors, il y a certains qui disent que les chutes sont de plus en plus nombreuses, sont de plus en plus violentes. Les anciens qui disent non, il y en a toujours eu des chutes. Toi, tu juges comment justement cette position? Est-ce que pour toi, depuis que tu es passé professionnel, c'est la même chose? Ou alors aujourd'hui, ça va peut-être un peu plus vite, ça tombe plus souvent, les gens font moins attention. Tu te places où là-dedans?
Non, bah après, à l'image de ma chute de la Sarthe, bon après c'est voilà, c'est sous la pluie et c'était une chute, voilà, que ça on aurait difficilement pu éviter. Mais non, je pense que déjà le critère numéro un, c'est que ça roule beaucoup plus vite. Et voilà, déjà dans le sens où le matériel est plus performant qu'avant
Ouais.
et tout de plus en plus performant, et donc ça permet de rouler de plus en plus vite. Donc rien que déjà ça, forcément. C'est comme on met une limitation sur l'autoroute, c'est pas forcément pour rien. Donc, même si j'aime pas forcément que ça soit limité, mais voilà, c'est quand même pour diminuer le risque. Et nous, au final, on augmente le risque en allant plus vite. Donc, forcément, et parfois, je pense, il y a l'enjeu, et suivant le type de course, encore plus. Et voilà, il y a parfois des routes qui sont peut-être pas adéquates avec la vitesse et le nombre de coureurs aussi dans le peloton, sachant que. Le nombre de coureurs dans le peloton, c'est toujours le même. Donc,
Ouais.
du coup, on roule de plus en plus vite et de plus en plus serré. Et puis, voilà, il y a plus d'enjeux. Personne veut freiner. Et puis maintenant, toutes les courses sont importantes. Alors qu'avant, peut-être quelqu'un avait, enfin voilà, les moitiés du peloton se disent ah ben ça va, c'est une petite course, ou c'est voilà, parce que je veux pas dénigrer les organisations, loin de là, mais voilà, ça peut-être qu'il y avait plus cette mentalité-là, et maintenant toutes les courses sont importantes pour les équipes et il y a toujours un peu de pression tout le temps, et voilà, c'est personne n'a envie de freiner le dernier, et ça c'est, sinon tu perds un peu des places, donc tu dois faire des...
D'ailleurs, effectivement, en parlant de freiner, il y a Caleb Ewan, il y a quelques années, qui disait, qui déclarait à un journal australien, si tu freines dans les 2 derniers kilomètres, t'as perdu.
Ouais, voilà, c'est vrai que si t'as... Après, moi, je suis pas trop de cette mentalité-là, même si c'est un petit peu vrai, mais voilà, j'estime qu'il y a aussi le truc de savoir mettre un coup de frein aussi quand vraiment c'est nécessaire, parce que si dans ce cas-là, tu raisonnes tout le temps comme ça,
Ah bah il y a
bah
tout le monde par terre.
voilà, y a tout le monde par terre tout le temps, donc ouais, non, c'est, j'ai vu ça encore assez récemment. À un moment donné, il faut savoir prendre la décision de dire bon, bah je laisse, tant pis, je gagne peut-être pas, ou je laisse un peu le sprint filer, mais au moins je suis pas tombé. Et je pense que ça, c'est quand même hyper important, parce que voilà, tu peux te faire hyper mal quand même, et on a aussi qu'une seule vie, voilà. Donc je pense que ça, c'est un peu, voilà, c'est important quand même
Ouais, il y a des choses plus importantes, effectivement, que d'aller se mettre au sol sur une course de vélo. La troisième partie, le dessert du jour. Avant cela, on va regarder hein, le Mondomètre et le Françomètre. C'est le classement des victoires des équipes, avec le Mondomètre dominé par la formation Quick-Step Alpha Vinyl, une fois n'est pas coutume, hein, le team UAE. La Bora qui se rapproche avec le succès de Jai Hindley sur le dernier Giro d'Italia. Le coureur australien qui a devancé Richard Carapaz et Mikel Landa, ça s'est terminé hier. Et sur le Françomètre, on en parlait. Ta formation, le team Arkéa Samsic, qui est en tête avec l'équipe Cofidis, 11 victoires. La Groupama FDJ, grâce aux 3 succès d'Arnaud Démare sur le Giro d'Italia, qui remonte avec 5 bouquets en 2022. Avant de passer à ce fameux questionnaire, allez, on se fait un dernier plaisir. Il y a Clément Russo qui avait une question pour toi, Hugo.
Bonjour à tous, salut Hugo. J'ai une petite question pour toi. J'aimerais savoir combien de bananes manges-tu par jour? Allez, ciao, ciao, salut.
Ah, Clément. Ah,
Alors.
beaucoup, ouais. Non, au moins 3 ou 4, je pense, par
Ah
jour.
oui, quand même, ouais.
Ouais, au minimum 2 le matin, des fois une à 4 heures, une peut-être encore le soir, minimum, quoi.
Ah, t'es de l'ancienne école, tu pars et dans la musette derrière la banane, quoi.
Sur le vélo, un peu moins, mais vraiment le matin, déjà au déjeuner, c'est obligatoire. Et souvent, des fois, ça me manque. Alors, les assistants doivent toujours voir qu'il y a des bananes au petit-déj. Et non, Clément, ça lui a tout de suite choqué, parce qu'une fois, je crois, un petit-déj, j'en ai mangé 3, je crois, un truc comme ça. Mais elles étaient toutes petites. Et j'ai dit, bah, 3 petites, ça vaut une toute grande, quoi. Donc, du coup, il m'appelle un peu comme ça maintenant.
Ouais, la bonne ambiance au sein du team Arkéa. Allez, le questionnaire. Est-ce que tu te souviens, Hugo, de tes premiers coups de pédale?
Bah, les tout au premier, peut-être pas, mais plus ou moins, ouais, un petit peu quand même, à l'âge de, bah, très jeune, hein. Enfin, déjà sans les roulettes, mais après un petit peu en compétition, un peu plus tard, quoi.
Ouais. Ton idole de jeunesse, est-ce qu'il y avait quelqu'un quand tu étais plus jeune, comme ça, qui t'a marqué, que ce soit un sportif professionnel, un cycliste, un joueur de foot, je sais pas, un acteur, tu avais des posters dans ta chambre?
J'avais Andy Schleck en poster dans ma chambre, parce que je voulais être grimpeur quand j'étais petit, mais j'imaginais pas que c'était aussi dur en
Ah oui,
fait.
c'était pas le
Et...
parallèle Cipollini, c'était
Non.
Andy Schleck, quoi.
Ouais, c'était Andy Schleck, ouais, je l'adorais, ouais, parce qu'en plus il n'arrivait pas à gagner, donc peut-être que j'avais déjà un petit peu un truc comme ça. Et puis après, finalement, il a quand même gagné, mais ouais, Andy Schleck, et ça m'a. Henry Schossler aussi, j'ai beaucoup aimé Henry Schossler.
Qu'est-ce que fait Hugo Fetter quand il n'est pas sur le vélo, que ce soit à l'entraînement ou en course? C'est quoi tes passe-temps, tes hobbies?
Bah, je promène Pétrus, ça c'est déjà ça. Après, non, un peu le vin aussi, et puis un peu la FIFA aussi, un petit peu quand même.
Faut s'occuper, voilà.
Voilà, un petit peu.
Le garçon qui t'a le plus impressionné sur un vélo depuis que t'es passé professionnel, un garçon où quand tu roulais à côté de lui dans le peloton, tu t'es dit, lui, il en impose.
Ah, ouais, c'est. Bah, après, ouais, moi je suis tombé dans le moment où Sagan, il était 3 fois champion du monde, donc.
Forcément, ouais.
C'est sûr qu'à côté de Sagan, mes premières années, c'était le patron du peloton, on va dire, enfin patron entre guillemets, hein. Pas que certains pensent qu'il disait ce qu'il voulait, mais ouais, c'était un peu lui, la grande, grande star du vélo, qui l'est toujours un petit peu. Et maintenant, on a la chance d'avoir Julien aussi. Donc, ouais, c'est les deux qui vraiment dégagent quelque chose de fort comme ça.
Une anecdote qui t'a marqué en tant que coureur, que ce soit pendant une course, après une course, avant, quelque chose dont tu te souviendras toute ta vie?
Bah après, mes victoires aussi, c'est sûr. Après, des fois, c'est vrai que les anecdotes, des fois, on y pense parce que souvent, on se dit, ah, on va me poser cette question. Alors, des fois, quand on me dit, je vais me poser cette question, on y réfléchit. On a une idée dans la tête, on se dit, tiens, je vais dire ça la prochaine fois. Et après, quand on doit le dire, on l'oublie. Mais c'est vrai qu'il y en a, ouais, il y en a tellement, je pense. Mais c'est vrai que les victoires, c'est quand même les plus importantes. Et puis, voilà, nos proches et tout. Donc, c'est vraiment les victoires qui marquent le plus, je pense.
Forcément. Ce que tu aimes le plus dans ton métier de coureur cycliste?
Faire mon vélo quand j'ai envie en fait. Genre, je me lève le matin, j'organise ma journée comme j'ai envie et tout, et ça, c'est top, ça.
Ça, c'est sympa, ouais, je valide. Ce que tu aimes le moins, à contrario, dans ton métier de coureur cycliste?
Ah, m'entraîner quand j'ai des mauvaises jambes, ça, c'est horrible. C'est horrible de s'entraîner quand on n'est pas bon, c'est pas top.
Le mot de la fin, si tu avais un souhait à faire exaucer là maintenant, ça peut être n'importe quoi. Je sais, c'est pas évident, tu choisirais quoi?
Être champion du monde.
Ah, ça, c'est un beau souhait. C'est un beau
Ouais,
souhait. Ça va être un peu dur cette année en Australie quand même.
après rien n'est
Quoique.
impossible. Rien n'est impossible.
Rien n'est impossible. Merci beaucoup Hugo pour ta franchise, pour ta sympathie. Je te propose de regarder, tiens, le programme TV, parce que ça va te concerner de cette semaine. Il est riche une nouvelle fois. Dès demain, ne manquez pas, deuxième édition de la Mercantour Classique dans l'arrière-pays niçois. Le début du Critérium du Dauphiné dès dimanche. Et la Bruxelles Classique dimanche à partir de 15h30 à suivre sur Eurosport 1. La Bruxelles Classique d'ailleurs, tu en seras Hugo.
Yes, ouais, dimanche.
Objectif victoire?
Comme d'habitude.
Comme d'habitude, eh ben c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup, Hugo, d'avoir été notre invité. On va te suivre avec attention. On espère peut-être que tu seras au départ d'un des deux grands tours cette saison. En tout cas, on a passé un très agréable moment en ta compagnie. Lundi prochain, on aura rendez-vous à la même heure avec Jason Tesson, le sprinter du team Saint-Michel-Aubert 93. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Bye bye, Hugo. Bye bye à tous.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.